Vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus. C'est International sur TV5 Monde, RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Au sommaire aujourd'hui, le nom d'une ville, Mossoul, à la fois symbole de terreur et peut-être d'espoir. On se souvient que c'est dans cette deuxième ville du pays que l'État islamique a installé, voici 2 ans, son califat et il est toujours implanté. L'armée irakienne, en début de semaine, largement soutenue par les forces américaines, tente de reprendre le contrôle. Notre invité aujourd'hui est irakien, il est chercheur, il est anthropologue. Hocham Daoud, merci d'être avec nous. Nous allons tenter de comprendre l'enjeu de cette bataille et peut-être plus globalement l'avenir de cette région qui est en guerre presque ininterrompue depuis 35 ans. Donc beaucoup de questions que nous vous poserons avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du Monde. Avant de vous entendre, retour précisément sur ces 2 dernières années à Mossoul avec la victoire éclair à l'époque de Daesh.
En quelques heures seulement, c'est la débandade pour les forces irakiennes. Quelques 30 000 soldats fuient Mossoul face à 1 500 combattants de l'État islamique précédés d'une réputation de terreur. Débandade suivie d'un exode, celui de la population principalement sunnite de la deuxième ville irakienne. Plus de 2 millions d'habitants avant l'arrivée des djihadistes, 1 million environ aujourd'hui. Collaborer ou risquer d'être tué, pas d'autre alternative pour les habitants de Mossoul. Les djihadistes y proclament le califat, assorti d'une interprétation rigoriste de l'islam dont ils s'érigent en seul juge. Une vision du monde où le patrimoine et l'art n'ont pas droit de cité. Face à cette situation, la reconquête de Mossoul a été annoncée depuis plus de 6 mois. Bagdad avait besoin du soutien de la coalition militaire internationale menée par les États-Unis. Une situation difficile pour celle qui livre combat sur plusieurs fronts, en Irak mais aussi en Syrie. Depuis, la situation s'est encore complexifiée, car Mossoul est situé dans une zone stratégique où les pays voisins de l'Irak agissent en sous-main. Turquie, Iran, sans oublier les Kurdes qui attendent leur heure. Finalement, de dissensions des forces en présence aux querelles politiques à Bagdad, le feu vert de la reconquête n'aura été donné que ce lundi par le Premier ministre irakien. Personne ne se hasarderait à dire combien de temps il faudra pour évincer les combattants de Daesh qui s'y trouvent encore. 3 000 à 4 500 hommes, selon une estimation officielle américaine, contre 10 000 hommes en mars. Une reconquête militaire qui ne signerait en rien un règlement politique dans cette région de Ninive.
Voilà, je vous disais, nous recevons Hocham Daoud. Merci d'avoir rejoint le plateau d'International. Vous êtes chercheur, anthropologue, donc vous étudiez la science du vivant. Et vous avez été directeur de l'Institut français du Proche-Orient dans l'antenne irakienne. Est-ce qu'il se joue actuellement, au fond, est quelque chose d'assez facile militairement? Ou est-ce que ça peut durer, cette bataille de Mossoul? Il y a quand même un grand déséquilibre des forces.
Vu sur le terrain, le rapport de force est en faveur du gouvernement irakien, de la coalition internationale, d'une manière écrasante. Seulement, la question, ce n'est pas simplement un guerre militaire. Qu'est-ce qu'on fait après? Surtout, c'est une ville subversive que, au départ, rejetait l'humiliation, la marginalisation venant d'un gouvernement en Irak, à Bagdad. Donc, pas adhérer, je dirais même accepter, tolérer, pris une position neutre, surtout première, deuxième mois, avec l'arrivée de Daesh, s'installer, les choses devenues beaucoup plus compliquées plus tard. Maintenant, que faire avec cette ville-là et cette région? Quel dessin politique proposer? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard?
Mais Hocham Daoud, est-ce que aujourd'hui la population de Mossoul est capable de se soulever ou a encore des supporters pour l'État islamique?
Le 23 octobre, aujourd'hui, je dirais la présence de cellules subversives, de résistance, etc., assez faible. Ça rentre davantage dans le cadre de, un peu, je dirais, pressing médiatique, pour dire qu'il y a des populations qui peuvent bouger. Cependant, la population de Mossoul, la cité, il faut séparer entre Mossoul et ce qui est Ninive. Ninive, c'est la province. Mossoul, c'est la capitale, chef-lieu de Ninive. La population de Ninive, ils sont majoritairement aujourd'hui craintifs. Ils ont peur de la suite. Ils savent que Daesh est irréversiblement, militairement, sera vaincu. Ils ont peur de le lendemain. De là de dire que demain, ils se soulèveront avec des armes à la main, etc., non.
Mm-hmm. Est-ce que la peur de la population de Mossoul aujourd'hui, c'est uniquement l'État islamique? C'est pas aussi les représailles possibles des combattants de l'armée irakienne ou des milices chiites qui pourraient arriver très bientôt dans cette ville?
Oui, à l'intérieur de la ville, il y a des craintes très visibles, des gens qui parlent de plus en plus. C'est vrai, on sait que Daesh sera battu normalement, selon la donnée d'aujourd'hui. Mais qui va rentrer dans la ville? Qui va gouverner? Comment on va distribuer le pouvoir? Vous savez, aujourd'hui, il y a un tel chevauchement, un emboîtement difficile. C'est vrai, il y a la présence fédérale de l'armée irakienne, plus visible qu'avant. Mais il y a des forces kurdes de Peshmerga qui disputent une partie de cette région, y compris une partie de la ville. Nous avons aussi des groupes armés maintenant, de minorités qui se trouvent dans la région, des chrétiens, yazidis, etc. Nous avons une petite armée turque, autour de 3 à 4 000 hommes déclarés. Nous avons la force de la coalition, il n'y a pas que les Américains. Il y a y compris des Français, c'est vrai, autour de 150, 160 militaires. Mais il y a des Italiens, il y a des Canadiens, il y a des Australiens, etc. Il y a encore des Iraniens. Et il y a encore des gens, des tribus, etc. Et d'autres, ils sont armés et formés. Vous voyez, c'est tellement tel emboîtement que des fois, on n'a pas cette facilité de voir clair qu'est-ce que c'est les fils conducteurs.
Christophe Ayad.
Mais Cham Daoud, à vous écouter, on a l'impression que la libération de Mossoul n'est pas du tout un soulagement. C'est même presque plus une source d'inquiétude que la situation antérieure.
C'est un déchirement pour la population de Mossoul. Ils veulent en finir avec ce qu'ils vivent depuis 10 ans, 12 ans, pardon. Mais ils sont inquiets pour le lendemain. Qu'est-ce qu'on va installer à la place? Qui va gérer? Et deux fois, ils posent même des questions concernant la force qui vont libérer Mossoul. Je dirais d'une manière un peu non avouée par la population de Mossoul, ils veulent quand même peut-être un arbitrage international. Mmh. Ils le souhaitent. Et même si l'armée irakienne fédérale va rentrer à l'intérieur de Mossoul, peut-être il faut qu'il soit secondé par la coalition internationale et par les Américains eux-mêmes. Mmh. Peut-être ils sont moins enclins de voir une force de pays de la région incorporée d'une manière déguisée parmi telle ou telle milice ou d'une présence directe. Donc il y a la confiance qui manque totalement. Il faut installer et ça prendra de temps.
Oui, alors Cham Daoud, justement, qu'est-ce que vous pensez du moment choisi pour lancer cette offensive? Elle a commencé il y a bientôt une semaine. Pourquoi maintenant? On le dit, ça fait 2 ans que Daesh avait pris la ville. Pourquoi maintenant? Et pourquoi est-ce que vous pensez que assez de préparatifs ont été faits justement pour gérer cet après?
Pour gérer cet après, non. De préparatifs militaires, il y a assez de préparatifs militaires. Le rapport de force est vraiment défavorable à Daesh. La question reste posée militairement. Faut-il rentrer au couteau avec bombardement, tapis de bombes, etc.? Bien sûr que non. Il y a 1,5 million à 2 millions. Il y a 1,2 million à 1,5 million. Il se trouve à l'intérieur de Mossoul. Donc il faut aller avec des précautions. Et la ville de Mossoul, la morphologie de la ville de Mossoul est assez différente. C'est une ville plurielle ethniquement, sur le plan religieux et sur le plan confessionnel. Si le tigre traverse la ville, toute la partie est qui se donne vers le Kurdistan s'est mélangée davantage kurde avec des chrétiens et d'autres qui se chevauchent avec la plaine de Mossoul qui est aussi chrétien d'origine. Donc vous voyez, certains quartiers, il y aura des batailles beaucoup plus difficiles, d'autres quartiers un peu plus simples. Et nous sommes dans cette disposition aujourd'hui.
Mais Cham Daoud, vous pensez que ça va durer quoi? Des semaines? Des mois? Il y a un général américain, hier, il parlait de 1 an.
C'est exagéré, un an. Ça rentre aussi dans le cadre, je crois, un peu d'intox médiatique. On ne peut pas dire qu'il y a tant de forces autour de Mossoul. Daesh est encerclé, il n'a plus de possibilité de bouger et on va rester 1 an asphyxiant une population d'1,5 million de personnes. Que tout se laisse à croire que nous voulons assouplir ce qui est de Daesh à l'intérieur. Comment on va rentrer? On va rentrer violemment ou on va ouvrir un corridor qui se retire?
Pour les laisser sortir.
Sortir, et ça pose un problème. Sortir où? S'ils vont sortir vers la Syrie, la Russie et les Syriens, ils ne sont pas d'accord. Y compris peut-être d'autres pays qui sont dans la coalition. Les Irakiens eux-mêmes. Donc, négocier avec qui? On sait le passif de Daesh qui se trouve dans cette région. Donc c'est une question compliquée. Il faut trouver un peu de la souplesse et beaucoup plus d'agilité politique pour aller un peu à l'avant et trouver une solution.
Mais je revenais sur la question de Sophie. Pourquoi ça a commencé maintenant? Est-ce qu'il y a eu des pressions américaines pour qu'on lance la bataille avant la fin du mandat de Barack Obama? Clairement.
Manifestement, il y a une pression américaine. Mais aussi, il y a un agenda irakien. Le premier ministre irakien, Haïdar al-Abadi, on sait, c'est un homme issu du parti d'Awam, mais il est faible à l'intérieur de son parti. Il est faible même dans le camp chiite. Mais ce monsieur qui est au pouvoir depuis 2 ans, il a réussi à travers sa faiblesse, parce qu'il est devenu un homme de négociation, parce qu'il est faible, il n'impose pas, il a réussi quand même à récupérer Tikrit, Ramadi, d'autres villes importantes, Fallujah, symbolique. Et maintenant, autour de Mossoul, Abadi, il est en train de transformer son statut d'un premier ministre faible uniquement de négociation, d'un homme d'envergure nationale, c'est lui qui est l'héros. Ça, c'est sur le plan irakien. Sur le plan international, bien évidemment, on a rapproché Obama, qu'il a eu une situation absolument contre-productive par rapport au Proche-Orient. Il a laissé la situation pourrir. Quelquefois même, on le critique qu'il se trouve indirectement derrière cette projection de Daesh pour ne rien faire. Il a retiré précipitamment la force américaine d'Irak. C'est vrai, mais Obama, pour son histoire, il vous laisse quand même 2 points importants dans sa palmarès pour dire que malgré tout, c'est sous mon mandat que Ben Laden était éliminé, c'est sous mon mandat que Mossoul a été récupéré. Mmh. Aussi, il y a 3e chose. La situation se précipite en Syrie et ailleurs. Voilà. Il y a une forme de dynamique qui s'empare de la région. On voit qu'il y a un certain chauffement qui se passe. La Turquie d'un côté, les Iraniens, négociation. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Si on le prend tous ensemble, ça donne une explication plausible.
Plus globalement sur l'Irak, on parle d'un conflit oublié, en guerre pratiquement depuis 35 ans. Vous disiez un pays qui n'a pas d'hymne, qui n'a pas de drapeau. Est-ce que le pays peut retrouver une stabilité, une cohérence, une unité après la victoire sur Mossoul?
Ce que les Irakiens essayent de voir. De toute façon, la population, d'une manière majoritaire, ils s'attachent à quelque chose qui s'appelle un pays, l'Irak. Mmh. Au niveau international, on a caressé l'idée jusqu'à il y a quelques mois que ce pays-là n'est pas viable. Il faut le redéfinir, repenser, etc. On voit aujourd'hui, ça a fait long feu. On a appuyé sur la population kurde, peut-être ils vont avoir leur indépendance. Aujourd'hui, les Kurdes, ils sont à 2 doigts s'entretuer. Il y a 2 armées kurdes, 2 administrations, je dirais même 3, avec des alliances au niveau régional et international complètement différentes et même contradictoires.
Hocham Daoud, qu'est-ce que vous pensez justement de ce qui est en train de se passer ou de ce qui s'est passé dans les dernières heures à Kirkouk?
Une ville importante,
ça révèle
un million d'habitants
ou ce repli des djihadistes qui est convoité par les Kurdes.
Kirkouk, c'était une opération de Daesh. Certains disent que c'était une incursion, une forme de diversion. Où ils sont arrivés? Quelques-uns, ils disent, il y avait des cellules dormantes, il y a une base, il y a une population, quelquefois, qui aide ou soutient, il appuie Daesh, il se trouve à l'intérieur. Quelques dizaines de personnes sont emparées d'édifices assez importants à l'intérieur de la ville, ils y ont resté, et de combats durs, ça a été mené, il leur a fallu de renforts venant de l'extérieur, participation même de l'aviation, quelquefois, de la coalition, pour extirper la Daesh de la ville.
Est-ce que c'est l'image de ce qui pourrait se produire sur d'autres fronts du pays pendant que la coalition essaye d'arriver jusque Mossoul?
Ça, c'est le risque majeur. Ce qui est posé tout à l'heure Christophe Ayad, c'est la peur de la population de Mossoul. Le jugement fondamental de la population de Mossoul, pourquoi ils ne veulent pas prendre l'initiative et avancer, c'est que Daesh, même si on arrive à le vaincre militairement, ils vont se dissoudre dans la population. Mm-hmm. Ils auront la capacité d'infliger de pertes, élimination, attentats, etc., etc., parce qu'ils ont établi des réseaux, recruté des personnes, ils ont toujours beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'affinités qui se passent à ce niveau-là. Donc oui, c'est le risque majeur pour eux plus tard.
Mais alors, Hocham Daoud, vous disiez, les Irakiens veulent l'Irak. Mais quel Irak? Est-ce qu'il faut un Irak fédéral, comme ça les Kurdes ont leur région, ce qu'ils ont déjà, mais aussi les sunnites et aussi les chiites? Et sur quelle base? Comment est-ce qu'il faut il faut 3 Iraks, un Irak sunnite arabe, un Irak chiite arabe et un Irak kurde, ou est-ce qu'il faut découper encore plus que ça? Qu'est-ce qui peut fonctionner en Irak?
Ce qui peut fonctionner en Irak, il faut repenser la question de l'État et sa forme de distribution de pouvoir, chose qui n'était pas faite depuis 2003.
Mais ça, c'était déjà le plan de départ, c'était tout de même de répartir, de donner aux différentes confessions.
Oui, mais c'était toujours repartir sur une base essentialiste. Quand on arrivait en Irak, les Américains sont débarqués, ils ont laissé de côté toute la forme de renvoi, d'identification de soi. Et les autres, ils ont dit, écoutez, vous êtes 3 groupes, d'un côté chiite, d'un côté sunnite, d'un côté kurde. Les chiites, vous, historiquement, vous étiez lésés. On prend le pouvoir, on vous le donne. Mm-hmm. Les chiites, ils disaient, bah, écoutez, puisque nous avons maintenant le pouvoir, on essaye de voir comment on les gérer. Qui va gérer le pouvoir? Il y avait, sur le marché, si je peux dire, que le parti politico-religieux. Donc, ils ont géré l'Irak avec leurs préceptes, avec leurs renvois, leurs symboles, leurs drapeaux, leurs imaginaires. Mm-hmm. Du coup, ils ont façonné l'Irak à partir de cette idée, ce qu'ils appellent Mukawina, ça veut dire composante de la société irakienne. Il y a une composante chiite, etc. Ils ont fait un système implicite, ce qu'on appelle un système de quotas, un système de répartition. Nous, chiites, donc nous avons la première responsabilité. Même s'il y a des élections, même s'il y a tout cela, mais un premier ministre, il y aura chiite. Majorité à l'Assemblée nationale, il y aura chiite, et ainsi de suite. Cette situation touche à sa terme, à sa limite. Parce que la question de l'Irak, qu'est-ce qu'on va faire avec tant de fonctionnaires, tant de pays, une histoire façonnée durant un siècle, des relations au niveau national et international, des richesses, la seule richesse où l'Irak appuie là-dessus, c'est le pétrole à 99%. Comment on va les repartir? On voit que on peut avoir une pensée politique religieuse, chiite ou sunnite, mais jusqu'à maintenant, ils sont échoués de trouver une économie islamiste et une économie...
Il n'y a eu aucune évolution entre Al-Maliki et le ministre, le premier ministre actuel, Al-Abadi?
C'est une paix armée entre les deux hommes. Maliki soupçonne Abadi qui a fait un quasi-coup d'État pour s'emparer du pouvoir, ce qui était un peu le cas. Mmh. Mais Maliki reste un homme fort avec beaucoup de moyens d'intervention et beaucoup de capacités d'infliger aussi, je dirais, presque des torts aux autres. Donc il a des alliés au niveau irakien, régional et international, ce qui fait que la situation irakienne reste un peu difficile à cerner, mais on voit depuis quelque temps une dynamique qu'il traverse avec le consentement des Américains, peut-être moins avec les pays de la région, c'est de consolider un centre, mais un centre qui soit en négociation et non pas en dictature d'imposer.
Alors, vous disiez, ça n'a pas marché, le système politico-confessionnel. Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui peut marcher dans l'Irak de demain, concrètement? Est-ce qu'on parle d'une fédération, d'une confédération?
La fédération, c'est une idée admise, ça se trouve dans la Constitution.
Oui, mais elle n'a jamais été mise en place sérieusement.
Non, parce qu'on est parti d'une situation qui était préétablie. Quand on essayait de dire qu'il y a une fédération, mais la région de Kurdistan était déjà indépendante. Les Kurdes, ils vivent au-delà de la confédération même. C'est une région indépendante, avec les drapeaux, les hymnes, l'armée, business, relations au niveau national et international, des aéroports. Un Irakien de Bagdad pour aller au Kurdistan est beaucoup plus difficile qu'il aille dans un pays de la région du Proche-Orient. Donc nous, de facto, nous sommes dans une situation très segmentée profondément. Mais ce qui est nouveau, aucun groupe et région aujourd'hui ne peut se présenter seul, d'une seule voix, unifiée. On voit une forme de frittement, de segmentation qui se passe, ce qui rend Bagdad un peu plus fort. Et la communauté internationale se pose des questions. Ça n'a pas dit que chaque fois on divise un pays, ça va apporter des solutions. Nous avons le Sud-Soudan. Donc à partir de là, faut-il créer un Sud-Soudan maintenant au nord de l'Irak, dans cette région-là? On va davantage vers un centre qui l'accepte pour dire, écoutez, des vraies fédérations avec une vraie délégation de pouvoir sur le plan de gestion économique, culturelle, éducative, voire même économique, voire même de rapport avec les pays étrangers. Donc pour l'Irak, la solution, le sacro-sainte d'un État, c'est la souveraineté. Et peut-être il faut même assouplir la notion de la souveraineté pour sortir dans une période de transition longue, pour réunir, ramasser tout le monde autour d'un fil conducteur. Sinon, on ne peut pas improviser demain un renvoi symbolique imaginaire si on ne travaille pas avec tous.
Merci pour ce premier regard sur la situation en Irak. Nous allons revenir, nous interroger sur les relations avec les autres pays de la région, la Turquie, l'Iran, la Syrie, etc. Avant cela, sur les antennes de RFI, sur celle de TV5 Monde, nous allons faire un point de l'actualité avant de vous retrouver dans un instant.
Merci d'écouter RFI, il est bientôt 12h30 à Paris, 10h30 en temps universel.
Aurélien de Vernoy.
Bonjour à toutes et à tous. Le travail des secours se poursuit au Cameroun deux jours après le déraillement d'un train qui circulait entre Yaoundé et Douala. Le bilan s'élève pour l'instant à 75 morts, mais plusieurs des 600 blessés sont dans un état très grave. Une journée de deuil national a été décrétée pour demain lundi. Le président Paul Biya a également annoncé l'ouverture d'une enquête. Frappe aérienne, affrontement au sol, les combats ont repris à Alep après la fin de la trêve humanitaire décrétée par la...
– Retour à international sur RFI TV5 Monde en collaboration avec le quotidien Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Hocham Daoud. Nous parlons de la bataille de Mossoul, de l'avenir de l'Irak. Cette bataille qui s'engage dans le Nord est particulière puisque le pays voisin, la Turquie, a fait connaître sa disponibilité pour chasser les djihadistes et les Irakiens, le Premier ministre, n'en veut pas. Pour quelle raison ?
Pour de multiples raisons, parce que déjà, la Turquie ne cache pas qu'elle a un visé par rapport au nord de l'Irak. Vous savez, historiquement, l'Irak a été façonné à partir de la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. En 1923, il y avait un traité de Lausanne qui a donné la physionomie actuelle
qu'on connaît. Donc il y a une visée expansionniste de la Turquie.
La Turquie, ils disent, le nord de l'Irak n'a jamais été négocié de la sorte, il était cédé sous pression britannique. Mm-hmm. Donc le nord de l'Irak, ça va non seulement pour la Turquie, le nord de l'Irak, de Mossoul, ça peut toucher aussi le nord de la Syrie jusqu'à Alep. Bon,
première
Donc,
raison.
Ça, c'est la première chose qui fait craindre à des gens, ils rapprochent davantage Bagdad et Damas, qu'il y a un visé turc. Mm-hmm. S'il y a un tel visé, il peut susciter des craintes de chez les pays d'autres, comme l'Iran. Et aussi, ça peut gêner, perturber le plan américain dans la région, parce que les Américains, ils ont besoin des alliés, ils n'ont pas les dispersés. Mmh. Donc tout cela, c'est vrai.
Et aussi la personnalité d'Erdogan qui joue.
Et la personnalité d'Erdogan, en effet. Les Irakiens, comme d'autres, ils le considèrent un peu difficile, peu diplomatique, voire même ombrageux. Et dans cette situation-là, ils considèrent que c'est un peu, je dirais, risqué d'avoir un plan militaire ou politique, de coordination avec lui. D'ailleurs, il ne se propose pas, il s'impose. Mmh. Il y a 3 à 4 000 soldats qui se trouvent au nord de l'Irak. Il insulte le premier ministre irakien. Ils disent, nous prenons malgré tout notre part au combat de Mossoul. Et nous sommes maintenant au nord de la Syrie. Ils ont fait une incursion il y a hier ou avant-hier dans ce qu'on appelle dans la campagne de Halab, autour de Halab. Donc tout cela, en effet, ça pose problème jusqu'où Erdogan, il peut arrêter. Le tout, d'ailleurs, ce qui est nouveau et encore plus inquiétant, Erdogan, il dit, écoutez, on découvre que nous sommes aussi sunnites. Et à ce moment-là, nous pouvons prendre la leadership de camp sunnite avec le pays de Golfe pour faire face aux chiites. Et nous en posons comme protecteur de protection de la population qui se trouve sur place. Les Irakiens, c'est vrai, ils sont très préoccupés par la situation intérieure. Mmh. Mais ils voient ce qui s'est passé en Chypre il y a 40 ans. Mmh. Ils disent, si le nord de l'Irak se termine, c'est comme terminer le nord de la Chypre avec l'invasion turque. C'est une complication supplémentaire.
Et c'est aussi non seulement territorial, une prétention territoriale, mais également concernant la ressource, les hydrocarbures, la ressource pétrolière.
Oui, il y a en filigrane un enjeu que personne ne peut cacher concernant l'oléoduc qui peut passer de l'Irak, voire même de l'Iran, vers la Méditerranée. Les Iraniens, ils ne cachent pas, ils discutent avec les Irakiens. Ils voulaient avoir une zone en corridor pacifié à l'ouest de l'Irak où leurs ressources, ils peuvent passer vers d'autres. Et c'est une manière aussi de consolider leurs gains stratégiques. Or, la Turquie, leur stratégie, c'est de rester incontournable. C'est ce qu'ils appellent le fond stratégique dans leur stratégie, leur pensée. Et puis, à la fois, pour dire que nous sommes la voie unique vers l'Europe de ressources. Question d'Aléoduc, c'est très important. C'est pourquoi, des fois, ils font des concessions, même par rapport à la Russie, même par rapport aux autres. C'est une question majeure, mais peu évoquée encore.
Et quel est l'agenda d'Erdogan vis-à-vis des Kurdes d'Irak? Parce que c'est assez complexe. Erdogan a son propre agenda contre le PKK jusqu'en Syrie et en Irak. Comment ça se passe?
En effet, c'est complexe. De manière générale, Erdogan, il représente l'État turc. Et c'est un État, malgré aujourd'hui géré par un État, par des partis islamistes, mais n'accepte pas qu'on refaçonne de l'intérieur ce qu'on appelle la physionomie de la Turquie qui est plurielle. Donc il ignore l'existence de quelques dizaines de millions, de Kurdes. On estime à 20 à 30 millions. Maintenant, il accuse le Kurde de Syrie d'être en collusion avec les terroristes de PKK en Turquie. Donc il l'exclut en majorité. Et puis il vient vers l'Irak. Il dit, écoutez, en Irak, vous avez deux familles kurdes. Une famille historique autour de l'ex-président Jalal Talabani, avec qui je n'ai pas beaucoup de rapports et de sympathie. Mais nous avons un deuxième groupe qui est de Massoud Barzani. Comme Massoud Barzani, il dit, pont de la Turquie, qu'on voit de passage, etc., on peut traiter avec lui, en fait, on peut les subordonner pour avoir une zone tampon. Le kurde des autres, il peut devenir de kurde sympathique, tant qu'ils sont des autres. Et à la fois, on peut faire des affaires avec eux et de marchés. Le marché de Kurdistan, ça a été un marché très important. La présence turque est très importante. Et ils ne veulent pas perdre tout sa gain stratégique qui était dans un moment de faiblesse d'Irak.
Hocham Daoud, si je vous écoute bien, vous êtes en train de dire que de Alep à Mossoul, Erdogan est en train d'essayer de se tailler une sphère d'influence. Mais d'une certaine manière, ça, c'était un peu le projet de Daesh.
C'était le projet de Daesh. Si on remonte même historiquement, permettez-moi une fois de corriger un renvoi historique très activement utilisé depuis un an. On parle trop de Sykes-Picot. Si on regarde la carte, et j'envoie nos téléspectateurs de voir la carte de Sykes-Picot, n'a jamais été appliquée la carte de Sykes-Picot. Mm-hmm. En vérité, depuis l'éruption de Daesh, la vraie carte de Sykes-Picot est apparue. La zone d'influence qui est de Daesh, ça a été de Mossoul jusqu'à la porte de la Syrie, ça a été historiquement la zone, ce qu'on appelle d'influence française. La zone sud, ça a été britannique, mais jusqu'à Dammam en Arabie Saoudite. Donc c'était cela, et maintenant on voit certains bousculements au niveau régional, et une fois Daesh a échoué. Les gens, ils pariaient. Daesh, il ne peut pas rester comme ça, comme le Rouen en Arabie Saoudite. Ils arrivent un peu, je dirais, tête brûlée, ils prennent le pouvoir avec des slogans, islamisation, mais petit à petit, ils deviendront sages, ils accepteront la réalité internationale. Or, ce plan-là a échoué. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette zone vacante ? Il sera regagné par les États qui est reconnu encore internationalement, mais peu existant sur le terrain, où il faut les refaçonner.
Donc vous allez dire, Erdogan profite du vide pour laisser par la défaite de Daesh ?
Totalement. Totalement. Ça trouve la poussée turque au nord de la Syrie. On voit la présence et l'insistance de Turquie de rester au nord de l'Irak.
On voit bien également une place très forte des Américains dans cette, à la fois diplomatique et militaire dans cette opération. Qu'est-ce qu'un changement à la Maison-Blanche entraînerait si Mme Clinton l'emporte ou Trump? Est-ce qu'il peut y avoir une modification importante? Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'il y a un agenda là-dessus?
Il y aura pas de modification majeure, je me place dans l'option de Mme Clinton à la Maison-Blanche. À ce moment-là, il y aura une forme de continuité, peut-être un peu plus avec les pays de la région. On retourne à cette idée qu'on va être avec les autres, mais on joue notre leadership par derrière, donc un peu à côté. Et peut-être elle demanderait davantage de voir la participation des pays de la région. Tout ça dépend de l'équipe qu'elle va mettre. Avec elle va se trouver. On parle de plus en plus de noms de ministres des Affaires étrangères, etc., et d'autres, qui, la personne citée, leur nom, etc., ils ont un grand art de négociation dans la région. Ils peuvent avoir une forme de continuité et répartition de rôle. En l'occurrence, certainement, si Mme Clinton est au pouvoir, on va avoir un rôle beaucoup plus important de Nicolas Burns. Mmh. Et Nicolas Burns, c'est l'homme de discussion et négociation de dossiers nucléaires iraniens. Mmh.
Sophie Malibu.
Dans quelle mesure est-ce que tout cela ne dépend pas finalement de la façon dont l'administration américaine s'entend ou pas avec les Russes? Et est-ce que justement le timing de l'opération en Irak n'est pas complètement dépendant de l'avancée et des succès engrangés par la Russie en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad?
Certainement, ça a précipité un petit peu la chose. Vu l'avancée on oublie souvent que l'apparition de Daesh en Irak sous la forme que nous voyons aujourd'hui, ça a dû aux événements en Syrie. Daesh, c'est vrai, la majeure partie de Daesh est irakienne, mais a été façonnée, formée, mise en scène, propulsée, même rentrée en incursion en Irak, c'est à partir de la Syrie. Donc, à un moment donné, la Syrie, ça reste indépendante, mais à un autre moment, la Syrie chevauche beaucoup avec l'Irak. L'intervention russe a changé la donne. Maintenant, les Américains, ils disent, soit qu'on va vers une confrontation ou coopération, ou soit on essaye de consolider le gain que nous avons à l'intérieur d'Irak. Je crois qu'ils sont davantage pour la troisième option. Ça implique un changement aussi important qu'on reconnaît les frontières actuelles, on reconnaît les autorités qui se trouvent à Bagdad, on reconnaît la légitimité de l'État. Donc on revient à des stratégies un peu classiques que, y compris des fois, on peut reconnaître certains retours de formes de pouvoir néo-autoritaristes. En Égypte, avec les Sissi et ailleurs, il faut l'imaginer pour d'autres États de la région aussi.
Mais je voudrais revenir juste sur ce duel, peut-être, entre Russie et États-Unis. On a vu tout récemment donc les Russes et les Américains s'accuser mutuellement de crimes contre l'humanité. Est-ce que on n'est pas dans une espèce de face-à-face, les Russes en Syrie, les Américains en Irak? C'est simplifié.
Oui, mais jusqu'à maintenant, à part les Américains, on essaie de le pousser pour rentrer davantage en Syrie. Il n'y a pas l'attention d'une part et d'autre pour franchir la frontière. Mais nous sommes dans une situation un peu de guerre froide. Je vous donne un exemple. On sait que les Américains veulent favoriser les scénarios pour faire sortir quelques-uns de Daesh par un corridor. Mais s'ils vont en Syrie, ils vont être accueillis par l'aviation russe. Et non seulement l'aviation russe, mais par la propagande russe pour dire, vous voyez, grandeur nature, la collision entre l'administration américaine et Daesh. Vous voyez, c'est eux qui étaient derrière toute cette situation. Donc nous sommes un peu dans la, je dirais, de jeu de perturbation de plans l'un de l'autre, ce qui apporte tort d'ailleurs à la population locale et trouver une solution.
Et pendant, Hocham Daoud, pendant la bataille de Mossoul, il y a une autre bataille qui, elle, dure depuis beaucoup plus longtemps encore, c'est celle de Alep. Quel est l'enjeu pour vous de la bataille d'Alep? Et est-ce que vous pensez que le régime syrien et son allié russe peuvent finir par remporter cette ville?
Pour l'instant, il essaye de s'emparer de la ville. On a passé de trêves, pressions et négociations, mais maintenant, deux fois même à la stratégie de Grozny, ça veut dire qu'il faut éliminer, liquider ce qui est en face, raser. Le pouvoir syrien, ils veulent en finir que moi je contrôle, après Alep, la majeure partie de la Syrie en termes de population. Donc je deviens incontournable s'il y aura un plan régional. Il y aura de toute façon un plan régional et international. On ne peut pas imaginer une solution pour la Syrie qui ne soit pas garantie par les pays de la région et au niveau international. Cette forme de garantie, ce sera une garantie un peu peut-être musclée, avec une présence, contrôle sur le terrain, etc., assortie d'idées de transition. Assad, il veut à tout prix s'accrocher à certaines cartes gagnantes et rester dans la course, et à ce moment-là, s'impose. La transition, pour lui, ça ne signifie pas l'éjection de Assad de pouvoir, mais la course et la compétition pour rester avec les autres. Mais vu les autres, dans quelle situation d'isolation il se trouve, donc Assad, il se trouve, il a toute la chance.
Mais comment vous expliquez justement que depuis 4 ans, les quartiers est de Alep sont bombardés quasi quotidiennement et le régime n'arrive pas à reprendre cette partie de ville alors qu'il y a une disproportion des forces énorme entre, on estime qu'il y a 10 000 à peu près rebelles à l'intérieur et 40 à 50 000 troupes autour.
C'est toujours la guerre urbaine, c'est toujours difficile. C'est toujours source de surprises, c'est toujours une souffrance pour des armées régulières. Il faut savoir que l'armée de Bachar al-Assad est affaiblie aussi. Et si pour entrer à la partie est de Halab, ça se fait aussi par des éléments de Hezbollah avec des Iraniens et les autres, et ils ne connaissent pas très bien la ville, et il peut susciter des sursauts parmi la population de l'autre côté, et puis ce n'est pas tout à fait contrôlable, et la perte y sera importante. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils veulent passer par une solution beaucoup plus coûteuse humainement, tragique, et c'est d'infliger plus de pertes et de peur. Et c'est de bombardements massifs, ça qu'on voyait ces derniers temps.
Pour Mossoul aussi, en Irak, il faut redouter une catastrophe humanitaire comme à Alep, même s'il n'y a pas de bombardements massifs.
Il y a au moins deux choses. Il y a concernant la manière qu'on mène la guerre. Comment on va rentrer à l'intérieur de Mossoul, c'est ça qui compte. Est-ce qu'on va rentrer par surprise, force spéciale, parachute, effondrement de Daesh, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, s'il y aura d'exode, qui partiront? Ces gens-là, s'ils partiront, est-ce que les Irakiens ont de formation pour classer ceux qui partent? Non. Est-ce qu'il y a de camps d'accueil? Non. Vous savez, par exemple, nous avons l'exemple de Fallujah, il y a quelques mois. Fallujah, c'est une ville importante, phare qui se trouvait à 40 km et 50 km de Bagdad. Quand les gens ils ont quitté la ville, la force irakienne n'a pas d'autre indice d'arrêter ceux qui étaient avec Daesh. Non, c'est par tranche d'âge. Donc ceux qui se trouvent entre 15 ans et 25 ans, on le considère susceptible qu'il était avec Daesh. Mais s'il y a 500 à 600 000 personnes qui quittent la ville à Mossoul, ça veut dire qu'on va arrêter autour de 100 à 150 000 personnes. Où on va mettre les 100 à 150 000 personnes? Qui va l'encadrer? Qui va l'interroger? Est-ce que nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas de vengeance et d'autres? Sur des questions de telle nature, c'est vrai, nous sommes en manque d'éléments de réponse. Et des fois même légitimement aussi, on a de l'inquiétude.
Ce que l'on voit sur les documents qui commencent à circuler sur la prise des villages aux environs de Mossoul, c'est qu'il y a un tri fait de façon assez arbitraire et même par dénonciation publique un petit peu. Et puis ces jeunes hommes qui sont suspectés d'être avec Daesh sont envoyés par camion vers Bagdad. Quelle est la possibilité, quelle est la chance que ces gens puissent accéder à une justice ou être mis dans les mains d'une autorité quelconque?
Voilà, sincèrement faible. Vous savez, depuis des années, il y a un nombre important de prisonniers sans d'être jugés qui se trouvent dans la prison en Irak. C'est toujours, on soupçonne quelqu'un de terrorisme, il y a un article dans la loi irakienne, ce qu'on appelle d'antiterrorisme, article numéro 4. Il suffit simplement sur une dénonciation, on peut arrêter une personne qui soit incarcérée. Oui, il y a, vous savez, le passif de Daesh est très lourd. Daesh est arrivé aussi après l'échec d'un pouvoir à Bagdad durant des années. Il y avait des exactions, il y avait des crimes abominables. Le monde entier, elle découvre cela. La question, il faut que la justice passe, mais il faut qu'il se passe de manière crédible. Seulement, l'Irak, dans la situation où il est, il n'a pas cette capacité d'imposer une justice.
Et pas la capacité ou pas la volonté?
Davantage capacité. S'il y avait la capacité d'institution, on peut imposer cette solution. Mais aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Et ce qui explique un peu cette inquiétude qui est un peu grandissante, mais il ne faut pas qu'on oublie quand même qu'on a amoindri tout le passif de Daesh qui s'est trouvé dans cette région sans se verser dans une forme de revanche, bien évidemment.
Hocham Daoud, est-ce que, plusieurs analystes disent la défaite probable, prochaine de Daesh à Mossoul, peut-être à Raqqa, va entraîner automatiquement une augmentation des attentats en Europe. Est-ce que vous partagez cette analyse, vous qui connaissez bien cette organisation? Est-ce qu'elle va mener une stratégie internationale ou régionale?
Daesh, au moins, il a deux formes de projection. Une locale qui est la branche irakienne largement. Dans votre journal, j'ai écrit pas mal sur cette question, que l'essentiel de Daesh en Irak, c'est structure irakienne. Il y a une partie qui venait de l'extérieur. À un moment donné, cette partie-là s'est périsse à l'intérieur, dû à la guerre, le bombardement, ciblage, élimination. L'autre, ils s'échapperont, partiront ailleurs. Certains combattants d'Afrique du Nord, on l'a vu, les retours en Libye, ça envimait la situation en Libye. Est-ce qu'en Europe, ça va compliquer un peu plus? Il est possible. Il est possible dû à cette forme de prolifération de centres de production, d'exportation, de consommation, je dirais, de djihadisme. On doit corriger une chose. Il y a de nouveautés. Le Proche-Orient, aujourd'hui, il n'a pas le monopole de produire du djihadisme. Il y a très peu de djihadistes d'origine proche-orientaux qui sont en Europe. En revanche, en Irak et en Syrie, il y a 5 à 6 000. Donc la tendance est renversée à ce moment-là. Si on ne prend pas toute cette forme de considération, cet enjeu de contradiction, on arrive à des questions. On va cibler une région, on considère que c'est l'épicentre de production djihadiste, etc. Or, depuis au moins 2005-2006, depuis l'opération de Londres, et depuis ce qui s'est passé à Madrid, et jusqu'à aujourd'hui, en passant par Charlie Hebdo et Bataclan, la situation a changé. Aujourd'hui, il n'y a pas une tête pensante qui est de Tora Bora ou de Raqqa ou de Mossoul. Mais à un moment donné, oui, quand on voit que la chose se complique, s'internationalise, se chevauche, oui, il y a des projections à partir davantage de la Syrie que de l'Irak.
Donc vous voulez dire la défaite militaire de Daesh au Proche-Orient, à Mossoul, Raqqa, n'aura pas forcément d'effet sur ce que vous appelez Daesh France ou Daesh Belgique ou Daesh Grande-Bretagne? Il y a un djihad français, belge ou enfin européen, quoi?
Il y aura une métamorphose de djihadisme. Il se prendra d'autres formes, peut-être pas la forme de Daesh qu'on connaît aujourd'hui. Daesh, c'est un projet d'une structure quasi-étatique locale, avec des ramifications internationales. Ce projet, maintenant, a marqué ses limites et il a voué à l'échec. Qu'est-ce qu'on fait avec ces milliers de personnes? Leur retour, leur projection à l'extérieur, est-ce qu'il y aura un international Daesh? C'est très difficile. Mais ils auront de retour dans leur pays à ce moment-là. Ils essaieront d'agir avec leur culture, leur attachement, leur formation. C'est fort possible.
Mais quel jugement vous portez sur la stratégie antiterroriste du gouvernement français qui mène la guerre en Syrie, en Irak? Mais c'est quoi sa stratégie antiterroriste sur le territoire français, dans les prisons, dans la société, dans les banlieues, dans les mosquées, etc.? Comment vous l'analysez?
Je ne suis pas spécialiste de questions de radicalisation en France. Mon collègue et ami Farhad Khosrowshahr est beaucoup plus apte pour parler de cela. Mais vu de Proche-Orient, si j'amène la stratégie française par rapport, elle devient un peu plus claire depuis un an. On ne la voyait pas si clairement avant. Essentiellement depuis Bataclan, il y avait une forme de confusion, une forme de je dirais, un peu... On ne savait pas dans quel camp on se trouvait. On n'arrivait pas à formuler une forme de priorité parmi des cibles et des adversaires, etc. Et on se trouvait beaucoup plus engagé. On a perdu le rôle davantage de médiation. Tout cela, bien sûr, ça nous a affaibli comme stratégie pour trouver des alliés dans la région.
Est-ce qu'il y a une guerre idéologique à mener contre Daesh? Et si oui, est-ce qu'il vous semble que les cibles de Daesh actuellement ont engagé cette guerre comme il faut?
Une guerre idéologique, oui, bien évidemment. Il faut toujours mener une guerre idéologique, mais il faut bien repérer, avec qui, à qui on s'adresse. On s'adresse, et Daesh, c'est essentiellement une population de jeunes, de jeunesse. Si vous faites un calcul, la tranche d'âge de kamikaze, ça ne dépasse pas largement entre 20 et 25 ans. C'est entre 15 ans et 25 ans. Le parade que Daesh a présenté hier à Mosul, hier, si vous voyez la tranche d'âge, c'est davantage entre 15 ans et 20 ans. Donc c'est une force vive sur quoi appuie Daesh. Il les reformate, il l'utilise assez souvent en rupture avec la mosquée traditionnelle. C'est une reprise en main avec d'autres formes d'éducation idéologique, théologique, etc. Et avec des projections qui sont différentes, souvent aussi en guerre avec leur génération précédente. Avec même la religion, je dirais, classique, culturelle, locale, de terrain. C'est que nous avons quelque chose un peu, je dirais, pas complexe de nouveau. La force de jeunesse dans la disposition de Daesh.
On se souvient qu'il y a 14 ans, c'était donc le début de l'intervention américaine pour faire tomber Saddam Hussein. Il y avait un espoir de démocratie. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui des Irakiens quand ils revisitent cette période ou cet espoir qu'ils avaient?
Globalement, le jugement des Irakiens sur l'invasion et l'occupation est négatif. Leurs idées de la démocratie, pour eux, c'est l'équivalent de la production de désordre. Donc voilà, comment ça projette. Néanmoins, depuis 13 ans, nous avons, bon gré mal gré, quelques institutions. Les Irakiens votent.
Est-ce que l'Irak est une démocratie aujourd'hui?
Non. L'Irak, davantage, un pays qui l'accepte, malgré lui, une forme de pluralité d'expression politique. Et cette pluralité... utilisée, tournée davantage par un accord politique entre la protagoniste pour qu'il devienne un système de quotas. Et les gens, ils peuvent s'exprimer à l'intérieur de chaque magma ou de chaque groupe. Mais de cela, ça ne fait pas une démocratie. La finalité de la démocratie, la liberté individuelle, la place de l'homme, la critique, l'expression, les syndicats, etc., on ne le trouve pas. Je vous donne un seul exemple. Ça date de 24 heures. Nous combattons contre Daesh au nord, contre le djihadisme et sa propagande. Hier, le Parlement irakien a voté une décision à majorité d'interdire l'alcool, l'importation de l'alcool et la consommation de l'alcool. Ce n'est pas la première priorité, peut-être, mais il s'agit de la liberté fondamentale de l'individu. Deuxièmement, il s'agit de populations qui ne sont pas musulmanes aussi, des chrétiens, des yazidis et des autres. Il s'agit, derrière cela, une volonté absolument folle d'imposer une identité politico-religieuse à ce pays-là, qu'il n'oublie pas, d'ailleurs, y compris dans ce moment difficile que le monde entier est avec l'Irak dans le combat de Mosul, quand même l'islamisation rampante, forcée, obligée à la société et à la base. Toute la partie islamiste, il condamne Daesh, c'est vrai, sur la question des exactions, des terreurs, etc. Mais on voit de très peu critiques concernant la base théologique. Et à ce moment-là, il faut chercher, est-ce que dans la base théologique, il n'y a pas quand même une causalité?
Hocham Daoud, merci d'avoir accepté l'invitation d'International pour ce regard sur la bataille de Mossoul, sur l'Irak et plus globalement sur cette région. Merci d'avoir été avec nous sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, émission réalisée avec notre confrère Le Monde. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre International. Merci.
RFI, la radio du monde.
Sen bulma gisma dile nga fok ni xamuma li nek ci sama sou ak sigin bëgguma kuma xol dal dine yow li nek ci yow mo ne ci man li ne ci man moy di len jappal. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting.
And when a child is born into this world, it has no concept of the tone of skin.
Dimanche 23.